Bonjour, je fais une émission sur le bio. Vous pensez que c'est quoi l'avenir du bio?
Ouf.
Je pense que le bio a un avenir radieux devant lui.
Là, récemment, je suis plutôt pessimiste en voyant ce qui se passe en France, notamment avec le bio qui s'effondre et où tous les consommateurs se désintéressent.
Le verre dans l'assiette.
Un podcast d'enquête immersive auprès des acteurs du bio, par Rachel Richterich. 10e épisode, retour aux racines.
On appelle ça une haie. Mais attention, hein, c'est pas la petite haie de thuya qui quadrille les quartiers de villa. Là, ce sont de vrais arbres, hauts de plusieurs mètres, plantés en bordure ou à travers des champs. Ces arbres, ils contribuent à améliorer la qualité des sols, en diminuant par exemple leur érosion et en facilitant l'infiltration de l'eau de pluie. C'est le principe de l'agroforesterie. Celle-ci permettrait d'améliorer de 30% par unité de surface la productivité des sols par rapport à la monoculture. C'est ce que montrent des recherches menées par la Confédération. Les arbres permettraient aussi d'aérer les sols et d'en faire remonter les éléments nutritifs. À côté de l'agroforesterie, se développent depuis une quinzaine d'années d'autres systèmes d'associations de cultures, tels que l'agriculture régénérative, l'agroécologie ou encore la permaculture. Le but, c'est évidemment de produire de la nourriture, mais aussi de nourrir la biodiversité, les sols et les ressources, avec pour objectif ultime de pérenniser l'agriculture en Suisse, rien que ça. J'ai cherché à en savoir plus sur ces méthodes que certains considèrent comme l'avenir de l'agriculture.
Ça fait 3 fois que je viens, mais je trouve toujours pas l'endroit. C'est cool. Donc je suis à Lausanne, en train d'arriver au Jordil, pour rencontrer Raphaël Charles. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Merci.
Je vous suis.
Raphaël Charles dirige l'antenne romande du FIBEL, l'Institut de recherche en agriculture biologique. Ses recherches se concentrent sur la connaissance de ces processus naturels. Je commence par lui demander de me décrire un peu en quoi consistent ces systèmes.
Il y a quelque chose qui les rassemble, c'est une notion d'environnement, de protection, de conservation et d'approche système, donc des systèmes complexes où on essaye de recréer un monde naturel, le plus naturel possible, par rapport à un monde très artificialisé d'une monoculture. On a beaucoup développé la spécialisation. Là, l'objectif, c'est de ramener une forme de diversité dans les productions, dans la manière de faire les choses.
Ces techniques agricoles sont toutes fondées sur le fait que la nature fait bien les choses et que quand on les associe habilement, les plantes et les animaux interagissent et s'entraident. Par exemple, les légumineuses sont capables de capter l'azote présent dans le sol, au contraire des graminées comme le blé. Mais quand elles sont plantées ensemble, bah le blé en profite. Les bénéfices s'étendent même au-delà.
Donc il y a ce jeu d'interaction entre les différentes cultures. Et puis après, il y a une meilleure tolérance à tout impact, que ce soit lié à des maladies, que ce soit des stress liés à un manque d'eau. C'est des systèmes qui tiennent mieux par rapport aux aléas climatiques. On peut imaginer si on n'a qu'une culture sur la ferme ou si on en a 10. Un coup de sec et la culture sensible s'avère être la principale culture sur la ferme, ben on a tout perdu. C'est l'histoire de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Sur le papier, ça a l'air tip-top, genre le modèle d'avenir qui va sauver notre système alimentaire et la planète. Et concrètement, ça donne quoi? Ben pour le voir, je me suis rendue dans le jardin forêt d'Antoine Hensch à Gaulion.
J'ai un petit passager aujourd'hui, parce que c'est le début des vacances. Et du coup, il y a Antoine qui est avec moi et qui vient voir un certain Antoine. Antoine Hensch, de la ferme des Éterpies. Voilà. Stop, viens, on passe par là. Voilà.
Viens, chouchou.
Dépêche-toi. Dépêche-toi. Alors, on est arrivé à 150 mètres. Entrée du magasin, légumes frais, viande, lait, œufs, pain, produits de la ferme en biodynamie, avec une boulangerie au feu de bois. Oh là là, ça fait rêver.
Avec sa femme Aude, ils ont créé le domaine des Éterpies, entièrement conçu selon cette idée de diversité et d'interaction.
C'est un petit domaine d'une dizaine d'hectares, à la jonction entre la Venoge et la Senoge. Le principe de base des Éterpies, c'est l'indépendance et, de manière un petit peu plus détaillée, de produire, transformer et vendre tout ce qu'on fait. qu'on ne vend rien à l'extérieur, tout se vend dans le magasin qui est là derrière. Et puis on essaie de mettre en valeur tout ce qui nous passe sous les mains. On fait un peu de maraîchère, on a planté des arbres, on a quelques vaches, pas encore de lait, donc c'est des vaches allaitantes, des brebis, pas pour le lait, pour la viande d'agneau, des cochons, des poules, des cailles, puis voilà, puis des abeilles.
Pour le miel.
Pour le miel, ouais. C'est cool. Pas pour le lait non plus.
Non, c'est pas pour le lait.
En guignant un peu dans les champs à mon arrivée, j'ai vu quelques jeunes arbres fruitiers plantés ça et là, au milieu des cultures maraîchères. Et puis une belle roulotte parquée pas très loin.
J'ai essayé de créer un verger maraîcher. Il y a des pommiers, il y a des poiriers, il y a des pruniers, puis il y a des lignes d'arbres. Et puis entre les lignes, j'ai mis de la maraîchère. Et ça nous crée des champs. Et ces champs, après, on passe les cochons dedans pour détruire les couverts végétaux, les anciennes cultures. C'est une espèce de mix entre la maraîchère, de l'arboriculture, de l'élevage de porcs. Tout ça, ça fonctionne avec des roulottes et tout est mobile. Si vous revenez dans un mois ou deux, la ferme sera plus pareille. Ça change.
Et moi, d'un air un peu ingénu, comme quelqu'un qui débarque de sa petite cité bobo du canton de Genève, je me dis « Mais c'est super, en fait, on laisse la nature faire son œuvre !»
Non, alors, ce que vous voyez là, il n'y a rien de naturel, hein. On va déconner, c'est des arbres. Alors oui, c'est un arbre, mais s'il était planté, il a été greffé, il a été choisi d'être mis là, il a été taillé, enfin bref, ça n'a rien de naturel. Et le système agricole, qu'il soit agroforestier, qu'il soit permacole, qu'il soit, on utilise des éléments verts. Oui, mais c'est pas la nature. Non, c'est de l'exploitation. C'est une forme d'exploitation de la nature à notre profit.
Bon, voilà qui est clair. En fait, il considère son mode de culture comme un partenariat dans lequel la plante, l'animal et plus généralement la nature environnante doivent pouvoir y trouver leur compte aussi. Et est-ce que ça marche? Eh ben oui. Bon, faut dire aussi qu'il ne plante pas tout n'importe comment au hasard. Antoine Hensch ne vient certes pas d'une famille de paysans, il a grandi à Renon. Mais il est ingénieur agronome, diplômé en gestion d'entreprise, avec une vingtaine d'années d'expérience dans les champs et toujours friand de connaissances. Donc oui, ça marche. À condition, me dit-il, de garder une forme de souplesse et d'humilité face au vivant.
La règle, c'est qu'il n'y en a pas. C'est dur, le vivant est quand même assez exigeant, mais aussi, il est extrêmement résilient. Donc il tolère pas mal. Je pense qu'avec de l'expérience, du bon sens, du travail et de la foi, mais dans le sens que ça va aller, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est un peu ces quatre choses. Il y a un moment, on fait tout ce qu'on peut, on réfléchit, on fait au mieux, on lit des choses, on applique, on adapte. Mais ça se passe assez rarement comme on a prévu. Mais ça se passe assez souvent bien, je dois dire.
Moi, je me dis, parfait. Donc, dans 10 ans, il n'y aura plus que des fermes qui fonctionnent selon les principes de l'agroécologie et de la permaculture. C'est presque touchant, cet optimisme dont je fais preuve. Et là-dessus, Antoine Hensch me colle une belle claque de réalisme.
C'est nécessaire d'avoir de la biodiversité, c'est nécessaire d'avoir des sols en bonne santé, c'est nécessaire d'avoir une pratique qui soit vraiment durable, mais c'est aussi nécessaire de manger. Moi, je préfère qu'on essaie de produire le plus possible chez nous plutôt que de l'importer. Voilà.
Et pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour nourrir tout le monde avec ce mode de production. D'une part, pour des questions réglementaires et d'aménagement du territoire. La moindre petite construction, comme un avant-toit, un muret, un étang, implique une lourde bureaucratie. C'est pas adapté à de telles structures qui ont besoin d'être très agiles. À cela s'ajoute le fait que la politique agricole très rationnelle tente à favoriser les grandes exploitations, avec des paiements directs calculés à l'hectare. Enfin, et pas des moindres, la question du prix payé aux producteurs.
C'est pas possible. Parce que, par exemple, une salade, nous, on la vend 2,50 francs et 3 francs, ça dépend la saison. Mais le coût réel, si je voulais rémunérer tout le monde à des salaires suisses, c'est 12 balles.
Autant dire que sans une volonté politique forte dotée d'importants soutiens financiers qui rendraient le modèle simple et facilement réplicable, difficile d'amorcer une transition significative vers ce genre de méthode agricole. Ça va pas vraiment dans le sens des intérêts économiques dominants à ce stade. Pour Raphaël Charles, un tel changement demande aussi de repenser les enjeux à un niveau alimentaire, et pas seulement agricole. Le consommateur a aussi une carte à jouer. C'est nous qui choisissons au fond.
Donc si on veut que la ferme fonctionne dans toute sa complexité, bah, il faut aussi que dans notre assiette, on retrouve toute cette complexité. Alors il y a des choses qu'on aime moins bien manger, puis d'autres, etc. Mais ça fait partie aussi de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire de manger de saison et de varier ce qu'on mange pour justement que le monde de la production agricole puisse aussi jouer sur cette diversité quand il produit. Donc si on mange que du blé, c'est clair qu'on induit immanquablement des monocultures ou disons des systèmes très très céréaliers. Si on diversifie, c'est là qu'on peut exercer une influence. Mais c'est très difficile à faire passer comme message.
Cette notion de diversité, elle est très souvent revenue au fil des épisodes de ce podcast. Diversité de culture, de technique bien sûr, mais aussi de parcours, de point de vue, d'approche, de pensée. Il y a une forme de respect pour cette diversité, pour le travail paysan, qu'il cultive en bio ou en conventionnel d'ailleurs. On avance tous dans la même direction, m'a-t-on dit. Ce monde, ou plutôt ces mondes agricoles, on les décrit souvent comme des milieux très conservateurs. C'est partiellement vrai, et à juste titre, puisque les paysans endossent fièrement d'ailleurs la responsabilité de nous nourrir, ils la défendent. En grattant un peu la surface, on découvre pourtant un foisonnement d'idées, de recherches, une soif de connaissances et d'innovations portées par ceux que l'on appellera plus tard sans doute des pionniers. L'avenir de notre agriculture et de notre alimentation se dessine derrière ces haies arborées qui festonnent les champs. En toute discrétion, une douce révolution calée sur la respiration du vivant.